Évangile selon Marc, chapitre 11. Jésus entre comme roi à Jérusalem. Versets 1 à 11.
Lecture de la parole. Et comme ils approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, il envoie deux de ses disciples et leur dit : Allez au village qui est vis-à-vis de vous. Et aussitôt, en y entrant, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» dites « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt il l'enverra ici. Et ils s'en allèrent et trouvèrent un anneau qui était attaché dehors à la porte, au carrefour, et ils le détachent. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous là, détachez l'anon ?» Et ils leur dirent comme Jésus avait commandé, et on les laissa faire. Et ils amenèrent l'anon à Jésus, et mirent leurs vêtements sur l'anon, et il s'assit dessus. Et plusieurs étendaient leurs vêtements sur le chemin, et d'autres coupaient des rameaux des arbres et les répandaient sur le chemin. Et ceux qui allaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le royaume de notre père David qui vient ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Et il entra dans Jérusalem et dans le temple, et après avoir promené ses regards de tous côtés sur tout, comme le soir était déjà venu, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les douze.
Lecture de l'étude. Quoique sur le chemin qui le conduisait à la croix, Jésus devait entrer comme roi à Jérusalem. Dieu voulait qu'il reçût du peuple le témoignage que ce Jésus rejeté était véritablement son roi, témoignage qui augmentait la responsabilité des Juifs et les laissait sans excuse. Le récit que fait Marc de cet événement est à peu près semblable à celui de Matthieu, sauf que Matthieu le met en rapport avec le caractère de Jésus comme Messie. Il montre cette entrée royale comme l'accomplissement de la prophétie de Zacharie 9, verset 9, citée en ces termes en Matthieu 21, verset 5, « Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, débonnaire, et monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Si Marc présente Jésus sous le caractère de serviteur et de prophète, il est toutefois roi et reçoit un témoignage comme tel. Et comme ils approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, il envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt, en y entrant, vous trouverez un anon attaché, sur lequel jamais aucun homme ne s'est assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» dites « Le Seigneur en a besoin, et aussitôt il l'enverra ici. » Versets 1 à 3. Les disciples trouvèrent tout comme le Seigneur leur avait dit. Ils lui amenèrent donc l'anon sur lequel ils mirent leurs vêtements, afin que Jésus s'assît dessus. Plusieurs étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent les rameaux des arbres et les répandirent sur la route, transformés en une voie royale. Ceux qui le précédaient et ceux qui le suivaient, formant un cortège triomphal, s'écriait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le royaume de notre père David qui vient ! Hosanna dans les lieux très hauts ! Hosanna veut dire, on se le rappelle, « Sauve, je te prie !» C'est la prière que, dans son angoisse, au dernier jour, le résidu juif présentera au Seigneur pour obtenir sa délivrance. Il dira « L'Éternel est notre roi, lui nous sauvera. » Ésaïe 33, verset 22. Et au psaume 118, verset 25, Ô Éternel, sauve, je te prie. C'est sous l'action de l'Esprit de Dieu que les disciples et les foules acclamaient Jésus comme roi, car, peu de temps après, le vide se faisait autour de lui, et, à un moment donné, il n'y eut que l'écriteau de Pilate sur la croix qui rendit témoignage à la royauté de Christ, en présence du peuple qui s'était écrié « Nous n'avons point d'autre roi que César ». Jean 19, versets 15 et 20.
Mais ils crièrent « Hôte, hôte, crucifie-le ». Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». Et Pilate fit aussi un écriteau et le plaça sur la croix, et il y était écrit « Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs ». Plusieurs des Juifs donc lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville, et il était écrit en hébreu, en grec, en latin.
Arrivé à Jérusalem, Jésus entra dans le temple, et après avoir promené ses regards de tous côtés, surtout, comme le soir était déjà venu, il sortit et s'en alla à Béthanie avec les 12. À Béthanie se trouvait la demeure hospitalière de Marthe, de Marie et de Lazare que Jésus avait ressuscité d'entre les morts quelques jours auparavant. Là, à l'écart de la ville orgueilleuse et rebelle, où son arrestation se complotait, Jésus jouissait de la sympathie de cette famille, d'autant plus qu'il sentait la haine des Juifs monter comme une marée qui ne s'arrêterait pas même à la croix. Heureux ceux qui purent offrir, sur cette terre, un asile au Fils de Dieu, inconnu et méprisé, parce qu'il était venu pour servir et sauver sa créature, pécheresse et perdue. Aujourd'hui encore, l'occasion se présente de recevoir Jésus méprisé et haï. Pour cela, il faut premièrement l'accepter comme sauveur. Ensuite, il pourra devenir l'hôte du cœur, apprécié plus que tout ici-bas, puisque lui seul a apporté le repos et la paix à la conscience travaillée et chargée d'une lourde culpabilité. Nous sommes aux derniers jours où Jésus frappe à la porte du cœur. Il veut entrer pour y verser une paix et un bonheur éternel dans la jouissance de sa communion. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Il faut ouvrir la porte de son cœur pendant qu'il en est temps, car le moment s'approche rapidement où Dieu même fermera une autre porte, celle de la grâce, à laquelle il sera inutile de frapper. Le figuier sans fruit, versets 12 à 14.
Lecture de la parole. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si, peut-être, il y trouverait quelque chose. Mais, y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et répondant, il lui dit, « Que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi. » Et ses disciples l'entendirent.
Lecture de l'étude. Le lendemain, comme Jésus sortait de Béthanie, il eut faim, et voyant un figuier, il s'en approcha pour voir s'il y trouverait des figues. Mais il n'y vit que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Voyant cela, il dit, « Que désormais personne ne mange jamais de fruits de toi », et ses disciples l'entendirent, verset 14. Ce figuier est une image de l'homme naturel dont Dieu s'était occupé en s'occupant de son peuple Israël afin d'en obtenir du fruit. Voir Luc 13, versets 6 à 9.
Et il disait cette parabole, quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Et il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve point, coupe-le. Pourquoi aussi occupe-t-il inutilement la terre? Et répondant, il lui dit, Maître, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je l'ai déchaussé et que j'y ai mis du fumier, et peut-être portera-t-il du fruit. Sinon, après, tu le couperas. »
Au lieu de fruits, Dieu n'a pu obtenir qu'une profession extérieure, représentée par les feuilles, car la nature humaine se soumet facilement à l'exercice d'une religion imposée, dont les résultats se manifestent par des changements extérieurs qui peuvent se produire sans la nouvelle naissance. C'est la religion de la chair qui n'est pas le fruit que Dieu réclame. Il y a apparence de vigueur, rien de plus. Tel le peuple juif, au temps du Seigneur, pratiquait la loi cérémonielle que Moïse avait donnée. Sa conduite extérieure faisait contraste avec le paganisme qui l'entourait. Les Juifs honoraient Dieu de leurs lèvres, mais, dit Ésaïe, leur cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29, verset 13. Telle est aussi aujourd'hui la chrétienté, civilisée en bonne partie par l'influence de l'Évangile, qui a produit chez les hommes des changements avantageux, mais qui ne sont pas les fruits de la vie de Dieu. En effet, cette civilisation avancée et chrétienne rejette Christ. Il y a la forme de la piété, mais on en a renié la puissance qui est Christ lui-même. Lire 2 Timothée 3, versets 1 à 5.
Or sache ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats, sans piété, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, incontinents, cruels, n'aimant pas le bien, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de tels gens.
Dieu veut de la réalité, il veut du fruit. Si la nature de l'homme en a dent, si Israël favorisé de toute manière n'en produit pas, il ne sert à rien. Après un long temps de patience, Dieu le met de côté, à cause de sa nature stérile comme celle du figuier. Le temps de la loi, durant lequel Dieu s'occupait de l'homme naturel, n'était pas la saison des fruits. La saison des fruits est le temps de la grâce, où le vieil homme a été condamné à la croix et où une nature nouvelle remplace la nature stérile de l'homme en Adam. Le Père peut alors cultiver cette nature et obtenir même beaucoup de fruits. Jean 15, verset 8.
En ceci, mon Père est glorifié que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples.
Certaines personnes, du fait que l'Évangile dit au verset 13, car ce n'était pas la saison des figues, concluent que le Seigneur ne devait pas s'attendre à en trouver. Comme nous l'avons vu, le temps dans lequel Dieu a laissé l'homme sous la loi n'était pas la saison du fruit. Cependant, Dieu a bien voulu attendre longtemps avant de prononcer son jugement. Pendant ce temps, il s'est souvent approché par ses prophètes pour voir s'il trouverait quelque chose, comme Jésus l'a fait avec le figuier. Mais outre cette explication suffisante pour faire taire tous les raisonnements de l'incrédulité, la nature, dont le Seigneur a tiré tant d'exemples, fournit la preuve que le récit de Marc ne la contredit pas lorsqu'il nous parle de Jésus s'approchant d'un figuier pour y chercher du fruit hors de la saison des figues. Un chrétien qui a habité la Palestine pendant plusieurs années explique que la saison des figues proprement dite dure d'août en octobre. Mais au printemps, saison où nous reporte le récit de l'Évangile, il y a déjà des figues d'une récolte printanière, mûres en juin, que les gens du pays mangent volontiers avant leur maturité en avril, comme ils le font, paraît-il, d'autres fruits. Mais il arrive quelquefois que des figuiers n'ont aucune de ces figues de la première récolte, tandis qu'ils seront chargés de celle de la seconde, qui est la véritable. C'est ce qui eut lieu avec le figuier dont Jésus s'approcha et qui servit à montrer la stérilité de l'homme naturel pour Dieu. Le même auteur dit que, dans les vallons abrités de la contrée de Béthanie et de Bethphagée, on trouve nombre de figuiers précoces et prospères qui ont ordinairement beaucoup de figues de la première récolte, lors même que ce n'est pas ce qu'on appelle la saison des figues. Une note en bas de page, Betphagé signifie « maison des figues » et, selon d'autres, « maison des figues mal mûres ». Il est bon de se souvenir que, tout étrange que puissent nous paraître certains faits consignés dans les Écritures, à nous qui vivons dans des pays différents de mœurs et de climats, la parole ne rapporte jamais des choses fausses. Ce qu'elle dit quant à la nature, aussi bien que lorsqu'elle nous parle de Dieu et de l'homme, est la vérité. Si nous ne comprenons pas, c'est à cause de notre ignorance, mais nous devons cependant croire. De retour à Jérusalem, versets 15 à 19.
Lecture de la parole. Et ils s'en viennent à Jérusalem, et, entrant au temple, il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes. Et il ne permettait pas que personne portât aucun vase par le temple. Et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent, et ils cherchèrent comment ils le feraient mourir, car ils le craignaient, parce que toute la foule était dans l'étonnement à l'égard de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, il sortit de la ville.
Lecture de l'étude. De retour à Jérusalem, au matin, Jésus entra dans le temple, et là il usa de l'autorité d'un roi dans sa maison pour la purifier. Il se mit à chasser dehors ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les colombes. Et il ne permettait pas que personne portât aucun vase par le temple, versets 15 et 16. Il voulait mettre sa maison en harmonie avec son propre caractère, qui était, selon Ésaïe 56, verset 7, une maison de prière pour toutes les nations. De fait, elle sera cela dans le règne millénaire, et si le temple d'alors était profané par le commerce que les Juifs y pratiquaient au moment des fêtes, il était cependant la maison de Dieu qui sera réédifiée pour le millénium, alors que les peuples y viendront chaque année adorer l'Éternel. Voir Zacharie 14, verset 16.
Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venues contre Jérusalem monteront d'année en année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles.
Au temps du Seigneur, les Juifs venaient de toutes parts célébrer la fête de la Pâque. C'est pourquoi le temple était transformé en marché et bureau de change, afin d'offrir à ceux qui venaient de loin les victimes dont ils avaient besoin pour sacrifier, et de leur permettre de changer leur argent. Aux yeux du Seigneur, c'était une caverne de voleurs, à cause du commerce qui ne se pratiquait rien moins qu'avec justice. Car si les Juifs se lavaient les mains en revenant du marché, c'était parce qu'ils croyaient se purifier des fraudes et de l'usure avec lesquelles ils accomplissaient généralement leurs transactions. Marc 7, verset 4.
Étant de retour du marché, ils ne mangent pas qu'ils ne soient lavés. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont reçues traditionnellement pour les observer, comme de laver les coupes, les pots, les vases d'airain et les lits.
La manière d'agir de Jésus excita la haine des principaux sacrificateurs et des scribes, qui cherchèrent comment il le ferait mourir. Cependant, ils n'osaient pas agir ouvertement, à cause de la foule que la doctrine de Jésus étonnait, et qui, plus accessible aux enseignements du Seigneur que les scribes et les pharisiens, paraissait avoir la conscience atteinte. Hélas, la crainte des chefs ne put pas longtemps retenir leur haine contre Christ, et les foules mêmes se trouvèrent sous l'influence de leur conducteur pour crier quelques jours plus tard « Crucifie-le !» Marc 15, versets 8 à 15.
Et la foule, poussant des cris, se mit à lui demander de faire comme il leur avait toujours fait. Et Pilate leur répondit disant « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Car il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. mais les principaux sacrificateurs excitèrent le peuple à demander que plutôt il leur relâchât Barabbas. Et Pilate, répondant, leur dit encore, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» Et ils s'écrièrent encore, « Crucifie-le !» Et Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Et Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié.
Tel est le cœur de l'homme, facilement influencé et toujours ennemi de la vérité et de la lumière que Dieu apporte sur son état. Le soir venu, Jésus quitta de nouveau Jérusalem. Le figuier séché, versets 20 à 26.
Lecture de la parole. Et le matin, comme ils passaient, ils virent le figuier séché depuis les racines. Et Pierre, se ressouvenant de ce qui s'était passé, lui dit, « Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. » Et Jésus, répondant, leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, « Ôte-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et il vous sera fait. Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père, qui est dans les cieux, ne pardonnera pas non plus vos fautes. »
Lecture de l'étude. Le lendemain, comme Jésus et les siens se dirigeaient vers Jérusalem par le même chemin que la veille, les disciples remarquèrent que le figuier stérile avait séché jusqu'à sa racine. Se souvenant de ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, voici le figuier que tu as maudit est sec. » Le jugement prononcé par le Seigneur avait produit son effet. Désormais, aucun fruit ne sortirait de cet arbre. Comme nous l'avons déjà vu, c'est une figure du jugement porté par Dieu sur notre nature pécheresse et qui, pour la foi, a été exécutée sur Christ à la croix. C'est très humiliant pour l'homme naturel, doué de brillantes facultés qui le rendent capable d'émerveiller le monde par sa science et son génie, d'accepter que, aux yeux de Dieu, il est un arbre sec, incapable de porter du fruit pour le ciel et auquel Dieu n'en demande plus et ne s'adresse que pour lui offrir le salut en croyant sa parole comme un petit enfant. Il pourra alors entrer, par la foi, dans une nouvelle condition devant Dieu, dans laquelle il lui sera agréable et portera du fruit pour l'éternité. Mais refuser de se soumettre à l'appréciation que Dieu donne de l'homme naturel, incapable et incorrigible, c'est s'exposer à demeurer éternellement sous les conséquences de ses péchés. Jésus répondit à Pierre, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous dis que quiconque dira à cette montagne, « Ôte-toi et jette-toi dans la mer », et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit se fait, tout ce qu'il aura dit lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez et il vous sera fait, versets 23 et 24. Si donc il n'y a ni ressources, ni capacité en l'homme, tout se trouve en Dieu. Ayez foi en Dieu. Voir psaume 11, versets 3 à 4.
Si les fondements sont détruits, que fera le juste? L'Éternel est dans le palais de sa sainteté.
Les disciples auront besoin des ressources divines pour continuer leur service, auquel tout se rapporte dans ce livre. Israël déchu, mais affirmant ses prétentions d'être le vrai peuple de Dieu, s'opposera à eux comme une montagne, emblème d'une grande puissance terrestre, avec laquelle ils se trouveront aux prises lorsque Jésus ne sera plus avec eux. Alors, ils ne devront dépendre que de Dieu, sans se préoccuper des hommes, pour accomplir leurs tâches. Tout ce qui aura le caractère d'une montagne ou d'un obstacle quelconque disparaîtra dans la mer. Note en bas de page, Israël, comme peuple, ayant continué de s'opposer à Dieu après la mort de Christ, fut jeté dans la mer des peuples, dispersé parmi les nations. Dans le livre des Actes, nous voyons les apôtres réaliser cette foi en Dieu, ne craignant que lui, lorsque Pierre et Jean répondent au chef des Juifs, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. » Actes 4, verset 19. La puissance menaçante d'un Israël jugé et sec jusqu'à la racine n'effrayait point ceux qui avaient foi en Dieu, et ainsi leur ministère put s'accomplir. La foi en Dieu se manifeste par la prière. C'est en dépendant de lui en toute confiance que l'on peut user de sa puissance pour le servir, quel que soit ce service. Il faut demander avec foi, en croyant que nous recevrons ce que nous demandons. Jacques dit qu'il demande avec foi, ne doutant nullement, chapitre 1, verset 6. Il faut aussi, avec la foi, un état d'âme qui permette de compter sur Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, « Et quand vous ferez votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos fautes, versets 25 et 26. Le pardon dont il est question ici est ce qu'on appelle pardon gouvernemental. Ce n'est pas le pardon des péchés que Dieu accorde une fois pour toutes à celui qui croit au sacrifice de Christ. Mais Dieu, dans son gouvernement, prend connaissance de la conduite des siens et agit en conséquence envers chacun. Il ne peut supporter le mal dans nos voies, et, si nous le commettons, nous devons en porter les conséquences. Mais, là encore, Dieu agit en grâce, et si nous confessons nos fautes, il pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Par conséquent, Dieu veut que nous nous pardonnions les uns aux autres. Sans cela, il ne pourra nous pardonner ni exaucer nos prières. Nous ne pensons pas toujours que notre raideur vis-à-vis de ceux qui peuvent nous avoir lésés, notre manque de grâce est de si graves conséquences. Il est bon de s'habituer dès sa plus tendre enfance à pardonner à ceux qui nous font tort et aussi à demander pardon à ceux que nous avons offensés, en nous souvenant que c'est par pure grâce que Dieu nous a pardonnés et que jamais nos semblables ne peuvent nous avoir offensés autant que nous n'avons offensé Dieu. Réponse de Jésus au chef du peuple, versets 27 à 33.
Lecture de la parole. Et ils viennent encore à Jérusalem. Et comme ils se promenaient dans le temple, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens viennent à lui et lui disent « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité pour faire ces choses ?» Et Jésus, répondant, leur dit « Je vous demanderai, moi aussi, une chose, et répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean, était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Et ils raisonnaient entre eux, disant, si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc ne l'avez-vous pas cru? Mais dirions-nous des hommes? Ils craignaient le peuple, car tous estimaient que Jean était réellement un prophète. Et répondant, ils disent à Jésus, nous ne savons. Et Jésus leur dit, moi non plus. Je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses.
Lecture de l'étude. Jésus et ses disciples viennent encore dans le temple où ils trouvent les sacrificateurs, les scribes et les anciens. Froissés dans leur orgueil par l'autorité avec laquelle Jésus avait purifié le temple de tout le commerce qui s'y pratiquait, ceux-ci s'approchent du Seigneur et lui disent « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Ils essaient de contester la validité indiscutable de l'autorité de Jésus, ne voulant pas admettre qu'elle venait de Dieu. À son tour, Jésus leur adresse une question pour leur faire sentir leur incompétence à le juger et aussi leur misérable état. Je vous demanderai moi aussi une chose et répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi, versets 30 et 31. S'ils répondaient du ciel, ils étaient condamnés parce qu'ils avaient repoussé Jean. En même temps, ils devaient reconnaître que l'autorité de Jésus était de source divine, aussi bien que le baptême de Jean. S'ils disaient « des hommes », ils craignaient la foule qui estimait Jean comme un prophète. Les malheureux préfèrent paraître ignorants que de s'avouer en faute. Ils répondent à Jésus « nous ne savons ». Et Jésus leur dit « moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais ces choses ». Si l'homme raisonne avec Dieu, c'est parce qu'il refuse de croire et qu'il veut justifier son mauvais état en cherchant à trouver Dieu en défaut. Que Dieu nous donne à tous de le croire en toute simplicité, afin d'acquérir cette sagesse divine avec laquelle Jésus réduisait au silence tous les raisonneurs de son temps, lui dont il avait été dit « tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis ». Car ils sont toujours avec moi. Psaume 119, verset 98. Nous vivons dans des temps où il y a beaucoup de raisonneurs. Gardons-nous de raisonner sur les choses de Dieu. Elles sont pour la foi et la foi des petits-enfants.